la musique.
Caravanana maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive
les oreilles.
Libre.
Dans ton cul, dans ta chatte. Il rit, il nous méprise.
cul, dans ton cul, dans ta chatte. Il rit, il nous méprise, il se marre, il se moque de nous.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne, partout ailleurs, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuses. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus au texte de notre invité qu'à sa musique, bien que celle-ci soit de qualité, à mon sens. Mais c'est vrai que ça rentre pas dans les musiques improvisées, par exemple, ou les musiques expérimentales qu'on a l'habitude de diffuser. Et on va s'intéresser au texte une fois n'est pas coutume. C'est pas si souvent. C'est vrai qu'on, bah oui, ça nous arrive même de passer assez souvent des musiques instrumentales dans l'émission. Là, avec Petra Piedbiche, puisqu'il s'agit d'elle, il sera question non seulement de sa musique, mais on accordera aussi une attention particulière à ses textes, dont plusieurs sont féministes. Elle nous en parlera assez abondamment. D'autres politiques, comme la chanson « Fumier » avec laquelle on a commencé l'émission. Chanson assez explicite, il est vrai. Alors, je suis allé interviewer Ben, Petra Piedbiche, à Amiens cette semaine, puisqu'elle vit en Picardie désormais. Ben sans plus tarder, je vous propose d'écouter l'entretien avec Petra Piedbiche. Bonjour Petra Piedbiche.
Salut Christophe Frémio.
Alors Ben, hein, c'est ton nom, c'est Ben.
Ouais, ouais, c'est ça.
Bon, je vois bien que tu te présentes et que tu nous dis, c'est une question que je pose aux musiciens qui passent dans notre émission, quelle formation tu as eue musicalement? Est-ce que tu as fait conservatoire, tout ça? Ou est-ce que tu es autodidacte?
Je faisais un peu de batterie avant d'aller au conservatoire. Et j'y suis restée quelques années. Et puis, voilà. Et du coup, on m'a montré aussi un peu de piano.
Ouais, au conservatoire, tu faisais quoi, du piano?
Non, en fait, je suis rentrée pour faire de la batterie jazz.
Ah ouais.
Et du coup, oui, parce que je suis rentrée au conservatoire parce que j'aimais bien le jazz, en fait. Puis j'avais découvert sur le tard. Et voilà. Donc, c'est pas trop des bons souvenirs. J'ai rencontré des super chouettes gens.
Ouais.
Et d'ailleurs, plutôt parmi les élèves que parmi les profs.
Mmh.
Mais il y avait des profs cool aussi, hein, mais c'était pas la majorité. Après, je parle pas humainement, c'est vraiment juste la structure de l'école et de comment on apprend la musique, mais ça se retrouve aussi dans l'école normale, je pense. Du coup, c'est pas forcément fait pour développer la créativité, je trouve. Pas fait pour aimer ce qu'on peut vraiment avoir de personnel, ce pour quoi on est venu, en fait. Parce que la différence avec l'école, c'est qu'on y vient c'était parce qu'on
obligé.
A envie de venir, on n'est pas obligé, mais pourtant, enfin bon, bref. Et. Du coup, j'ai mis quasiment autant d'années hors conservatoire pour réussir à me laver un peu de tous les trucs pourris qui me sont rentrés dans le crâne pendant que j'étais au conservatoire.
Eh ben, t'as bien réussi, bravo. Est-ce que tu peux nous expliquer ton dispositif scénique, de quoi tu joues? De quoi tu joues sur scène?
Eh ben, j'ai un clavier, une pédale où j'ai rentré des samples de percus.
Ouais.
Ou alors un peu des samples de clavier. Et puis j'ai aussi une percu, un tom basse, avec un peu de ferraille qui me sert de cymbale.
Ouais, ouais. Et donc t'as choisi d'être. Enfin, t'as choisi, je sais pas d'ailleurs. C'est ma question, c'est tu joues en solo?
Ouais.
Est-ce que t'as été dans des groupes avant? Et
ouais.
Comment t'es venu à faire un truc solo?
Pour plusieurs raisons. C'est un peu la crise de, je sais pas comment dire,
ouais.
Plus ça va et plus c'est compliqué de jouer à plein.
Pourquoi?
Parce qu'en fait, les endroits où vous voulez jouer, ils payent pas forcément quand vous êtes plein.
Ouais.
Donc, ce sera un de mes rêves, ça, faire un groupe à, je sais pas, 20, 30. Carrément. Sans dispositif pour se brancher, complètement acoustique, un gros truc super bruyant et tout. Et là même, à 20-30, mais électrique. Donc, c'est un peu un rêve. Hein. Peut-être ça arrivera pas, mais ça pourrait être sympa.
Ouais, ouais.
Mais oui, c'est pas évident de tourner avec des groupes super nombreux.
Un groupe, c'est 3 ou 4 musiciens, non?
Ouais, mais avant, un groupe, ça pouvait être aussi 6 ou 7 ou 8, quoi.
Bien sûr, ouais.
Donc, c'est de plus en plus galère de faire des groupes comme ça.
Ouais, ouais.
même dans des musiques où spécifiquement il y a besoin d'être nombreux, bah, ils réduisent à mort, quoi.
Ouais, ouais.
Donc il y avait aussi ce truc-là de un groupe solo, bah, quand je suis là, ça veut dire que je peux faire le concert, donc voilà. C'est vachement plus simple que plusieurs personnes. Puis aussi le délire de... Enfin, j'avais envie de porter ça toute seule, quoi. C'est pas forcément évident pour d'autres gens de... ou de soutenir, ou de... Voilà. Enfin, comme ça, ça évite un peu des...
Ouais.
Voilà. Puis c'est une expérience sympa aussi de jouer toute seule, quoi.
Ouais. Et alors, ma question aussi, c'est... Est-ce que t'as joué vraiment dans des groupes avant
ou... Ah oui, oui.
Ouais, tu peux dire, en parler deux secondes. Quoi, il y a une, non
ça... Bah, il y a des groupes dont je parlerai pas parce que c'était de la merde et je l'ai fait pour l'argent.
Ah ouais, d'accord.
Bah ouais, et d'ailleurs, bah, du coup, j'ai gagné un peu de thunes, mais ça m'a rendu malade. Bah... Donc après, je me suis dit que gagner de la thune en faisant de la musique, enfin, faire de la musique pour gagner de l'argent, quand la musique vous plaît pas, moi en tout cas, ça me va pas, donc j'ai arrêté. Ouais. Mais il a fallu que je tombe malade pour comprendre, donc voilà.
Ah ouais, ok. Donc t'es pas... ma question elle est un peu bête, mais t'es pas professionnel de la musique, si ou amateur? Est-ce que tu te considères comme amateur? Est-ce que t'as envie de la musique? Voilà, c'est la question.
Ouais, alors... je vais pas arrêter de râler. Bah alors, je sais pas. En fait, moi j'ai un problème avec ce concept de est-ce que j'en vis, est-ce que j'en vis pas? Parce qu'en fait... Je suis vivante, donc voilà, je vis tout court. Après, je vis de quoi? Ben, je sais pas, il y a autant la bouffe, l'air que je respire, les amis qui sont avec moi, les activités que j'aime bien qui sont pas forcément de la musique. Et oui, j'aime la musique, c'est mon truc, et j'en fais, quoi. Après, je suis pas riche, donc voilà, je sais pas. Le truc de vivre de quelque chose, moi, mais... ça me pose un problème, en fait. L'expression me pose un problème, mais non, j'ai l'air de pinailler, mais...
Non.
Sinon, oui, non.
Je trouve pas que tu pinailles, c'est essentiel, hein, c'est nos vies à tous. Donc c'est pas pinailler que de s'interroger sur nos vies.
Oui, ben moi j'ai besoin de faire de la musique, et donc j'en fais, et je fais de la musique qui me plaît, donc voilà. Là, je m'y retrouve.
Très bien. Peut-être on va... En fait, l'émission, c'est pour présenter un peu ta tournée, et ton disque aussi. Ton disque Barre de Rire. Est-ce que c'est le premier disque que tu fais?
Avec Petra, c'est le deuxième.
Ah ok, d'accord. Bon, ah bon, et c'est quoi le précédent?
Parce que tu es.
Parce que tu es mort. Oui, d'accord. C'est ça. Mais ça reprend des morceaux de...
C'est ça, bah en fait, ouais. Comme il est sorti que en CD, en cassette, et ben là, c'est mon premier vinyle Barre de Rire, du coup, je sais pas si je referai un vinyle. Ouais. Du coup, j'ai inclus des morceaux du premier disque et des morceaux.
Moi, c'est pas tellement tant vinyle CD, c'est le format. C'était un EP, comme on dit
Oui, EP, je crois.
Parce que tu es mort. Ben, on va écouter le morceau. Est-ce que tu peux dire deux mots? C'est un morceau qui me semble assez. Je comprends pas, en fait.
Ah, d'accord. Bah, c'est un morceau que j'ai fait pour... Parce que je trouve que c'est toujours dur quand on a des proches, des amis ou de la famille qu'on aime qui meurent. Mmh. Et voilà, je trouve que c'est super dur. Et voilà. Voilà.
Ouais. Eh ben, on écoute.
Ah! es mort, parce que tu 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 es mort.
Petra Piedbiche, moi j'aimerais bien que tu nous expliques comment, concrètement, hein, très concrètement, comment on fait un disque quand on est dans des milieux un petit peu en marge et tout ça. Et notamment, moi, ce que j'ai cru comprendre sur Barre de Rire, donc ton disque, c'est qu'il y a pas mal de coproducteurs.
Ouais.
Donc c'est dont notre copain Pascal de...
Ouais.
Mon cul, c'est du tofu.
Ouais. Ah bah, il n'y a pas que lui, hein.
Ouais, mais comment ça se fait, alors comment ça, concrètement, allez, on s'en rend... Ouais, non, non.
Bah, concrètement, c'est-à-dire que une fois que les morceaux ont été enregistrés, et que mon pote Scalpel, ouais, a fait une super illustration, et ben... J'ai contacté plein de gens qui ont des labels ou qui ont des distros et voilà, je leur ai demandé si ça leur disait de participer à la fabrication du disque.
Ouais. Mais et pourquoi pas essayer de démarcher, comme j'imagine pas mal de chanteurs, de chanteuses, une grande maison ou je sais pas quoi.
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire de la musique pour gagner de la thune, je peux plus faire ça. Ça a failli me tuer, je le ferai plus. Donc, je conçois qu'il y ait des gens qui le fassent. Là, je parle vraiment que en mon nom. Et
tu parleras toujours en ton nom.
C'est
dans
ça,
cette
super.
C'est...
Donc, je fais la mort à la personne. Je dis pas des vérités, tout ça.
Il n'y a pas lieu de.
Juste que moi, c'est mort, c'est archi mort. Et donc. Ouais. Avant d'habiter à Amiens, donc moi j'ai surtout commencé, enfin j'ai joué beaucoup à Paris en région parisienne, et donc j'ai commencé la musique sur le tard après avoir 20 ans, et j'ai commencé avec l'idée que donc quand on veut être musicien, musicienne professionnelle, alors faut aller à l'école ou dans une école ou quelque part où on apprend l'écriture, où on apprend des trucs super codés, une certaine façon de faire de la musique, où on rencontre des musiciens, tout ça. On veut tous devenir intermittents. Ouais. Donc faut cachetonner pour faire ses heures. Et si possible, avoir des cachetons assez conséquents pour que tout le monde puisse cachetonner quand on a un projet. Donc, il faut faire grailler les autres musiciens. Ensuite, on s'inscrit à la SACEM. Parce que comme ça, on a un peu la chimère de « Oh là là, si un jour ça pète, je vais gratter des thunes, ils vont me renfiler de la thune, super. Et si ça pète pas, quand ça passera à la radio, je ferai tout pour que ça passe à la radio et à la téloche, et ben je gratterai quand même un peu du pèse de diffusion. » Donc, démarcher des maisons de disques, ça veut dire être dans une optique où ça peut passer à la radio. C'est-à-dire, On peut facilement mettre une étiquette dessus, une ou plusieurs. C'est un truc qui va être reconnaissable. C'est un produit, en fait. Donc, mais un produit qui va se vendre. Vous ne passerez pas à la radio, en tout cas à une radio, les grosses radios quoi. Ouais. Si ce n'est pas un truc qui a une étiquette, qui est vendeur, qu'on va vendre dans la presse en faisant une promo avec les mêmes mots, toujours... Bref. Donc, démarcher des grosses maisons de disques, ça veut dire un peu viser un format en espérant que ça marche. Donc, en fait, moi, j'en ai rien à carrer. Je ne vise pas de format. Et en arrivant à Amiens, j'ai rencontré un paquet de musiciens qui n'ont même pas format, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Donc ça m'a vraiment fait du bien. Et si je n'étais pas venue habiter ici, je n'aurais jamais fait Pétrapied de Biche, je pense.
Et oui, et ce nom, Pétrapied de Biche, c'est que signifie-ce ?
Pied de biche, en fait, j'ai jamais eu trop de surnoms. J'ai filé plein de surnoms à mes amis, mais j'ai jamais eu vraiment de surnoms. Et du coup, pied de biche, je trouve que ça me va pas mal. Et Petra, c'est un prénom que j'aime bien. J'ai surtout entendu en Allemagne, mais j'aime bien. Du coup, voilà, Petra, pied de biche.
Le premier morceau qu'on a écouté dans l'émission, c'est Fumier. J'aimerais bien savoir ce que... t'as l'air un petit peu critique, pour le moins, envers les politiciens. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu ce...
Alors, en même temps, comment dire ? C'est un côté... c'est super simple, en fait, de se foutre de ma gueule. Alors, je parle Je parle de moi, hein, mais en fait, je pense qu'on est plein dans ce cas-là.
T'es parti sur un truc qui m'étonne.
Ça veut dire qu'en fait, il suffit d'avoir un costume, un paquet de pognon, du pouvoir. Alors, en plus, être élu, mais on peut aussi pas être élu, être juste PDG d'une grosse boîte, et dire sur des chaînes de téloche, dire à la radio, dire dans la presse, des trucs comme « Ouais, quand il y a une grève maintenant, on s'en rend même plus compte et s'en féliciter ». On peut dire des trucs comme « Ouais, il faudrait resonger à voir un peu tous les tabous qui concernent le travail des enfants, tout ça ». On peut dire des trucs racistes, on peut dire des trucs de ouf. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Bah rien. Ouais. Ça fait deux lignes quand ça fait deux lignes dans les journaux. Alors des fois, ça fait un petit scandale. En général, ça fait du bruit quand, à côté de ça, il y a une loi qui nous enfume à mort. Sinon, bah, on en parle vite fait et puis on oublie. Et donc, je trouve ça injuste, je trouve ça aberrant, je trouve ça insupportable. Et en fait, que je pense tout ça, ça change rien, finalement.
Et alors, ça m'intéressait de commencer par cette chanson parce qu'elle est un peu choquante.
Ben en fait, moi, je trouve qu'elle est bien moins choquante que la réalité, à savoir que c'est des hommes et des femmes politiques, ou médiatisés, ou des grands industriels, ou des patrons, des chefs de patrons, qu'on dit ça publiquement, que ça a été diffusé à toute patate. Et eux, ils sont pas allés en prison. Eux, ils ont pas eu d'outrage à la morale. Ils se foutent vraiment de notre gueule à mort.
Bon, et t'es un art.
Ah, je sais pas, je veux pas trop me mettre d'étiquette, mais il y a plein de trucs qui me séduisent dans l'anarchie. Les trucs libertaires, ça me parle beaucoup. Enfin, le communisme libertaire, on va dire, ça me parle. Ouais. Après, comment dire ? Ce qui, en même temps, je sais pas, j'ai beaucoup d'espoir dans le fait que les gens qui se mettraient ensemble, qui se mettent ensemble d'ailleurs et qui essayent de vivre autrement. Il y en a plein partout dans le monde, il y en a plein aussi en France, quoi, même si ils ne sont pas forcément visibilisés. D'ailleurs, ils durent plus longtemps comme ça, tant mieux pour eux. Ouais. Et ça me séduit. Après, le truc qui est difficile, c'est de se rassembler, quoi, de vraiment se faire entendre quand il y a des trucs abusés et qu'on aimerait bien qu'ils changent. C'est compliqué, quoi. C'est un peu. C'est une blague d'un de mes potes qui dit: qu'est-ce qui se passe quand tu mets deux anards ensemble? Ça fait un schisme. Bon. C'est bien sympa de partager des bonnes idées, mais après s'embrouiller sur deux ou trois détails, qui sont pas forcément des détails d'ailleurs, hein. Je dis j'exagère un peu. Ben, au final, on se retrouve moins organisé que des vraies crevures qui. Elles savent pourquoi elles sont assemblées, pour faire plus de fric.
Ah oui, tout à fait. Ouais.
Donc après, plus ou moins rouge, plus ou moins brun, plus ou moins bleu, entre eux, ils s'en fichent. Ils se partagent une galette. Et nous, on est là avec des grandes idées, on se prend la tête.
entré par la fenêtre. Il s'est mis à bourdonner, à se cogner partout. Ses rayures jaunes et noires me rendent fou. J'étais dans mon salon quand je vis cette lesbienne descendre du plafond. Le long de son fil, je m'affole. Je cours me réfugier dans ma chambre. Je n'en sortirai plus jamais. Arachnophobie, agoraphobie, homophobie, chercher l'erreur, aquaphobie, claustrophobie, xénophobie, la peur n'est pas un alibi pour la haine. Arachnophobie, agoraphobie, homophobie, chercher l'erreur, aquaphobie, claustrophobie, xénophobie, la peur n'est pas un alibi pour la haine. Ceux-là qui ne se cachent pas, qui haïssent ouvertement ceux qu'ils ne comprennent pas. Et puis il y a ceux-là qui sont fiers de ça, qui disent que c'est Dieu qui leur demande de faire tout ça. Ils rêvent d'ériger d'énormes bûchers où brûleraient ensemble métèques, pédés, avorteurs, avortés, les trans, les gouines et les femmes non mariées qui pèsent. Pour les violences de l'inceste, il paraît que Dieu ferme les yeux. Tout ça reste dans la famille. Pour les curés pédophiles, il paraît que Dieu ferme les yeux. Péché mignon d'aimer tellement les gosses. Arachnophobie, agoraphobie, homophobie, chercher l'erreur, aquaphobie, claustrophobie, xénophobie, la peur n'est pas un alibi pour la haine. Arachnophobie, agoraphobie, homophobie, chercher l'erreur, aquaphobie, claustrophobie, xénophobie, la peur n'est pas un alibi pour la haine.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. L'émission Les Oreilles Libres consacrée aux musiques singulières et autres formes d'expression curieuses, avec aujourd'hui notre invitée Petra Pied-de-Biche. L'émission étant différée, on l'a enregistrée à Amiens durant la semaine. Vous avez écouté précédemment les titres Parce que tu es mort et à l'instant Crétinophobie, extrait de son album Barre de rire qui vient de sortir. Allez, on écoute la suite de l'interview de Ben, Petra Pied-de-Biche, où il sera question de féminisme. Alors, il y a un des thèmes vachement présent dans ton disque, dans tes chansons, c'est, j'allais dire féminisme, mais je préfère dire la cause des femmes, parce que je te laisse le soin de dire si tu es toi-même féministe.
Ouais, je suis féministe. Après, quand je dis féministe... Même s'il y a femme dans la racine du mot, je pense que je suis antisexiste, je suis contre la haine des sexualités différentes, de l'hétérosexualité. Ça veut dire que j'aime pas les trucs avec phobie quand il s'agit pas de maladie, quoi. Donc homophobie, même si c'est un truc où tout le monde en perçoit le sens, ça me saoule. C'est la haine des homos, quoi. C'est pas juste une peur. Donc ça me saoule qu'on utilise le terme phobie. Ouais, après, bon, bah voilà, c'est un mot qui existe. Hein. Mais voilà, tout ce qui est contre la haine des transsexualités, la haine des sexualités différentes, donc je disais, donc voilà, qu'elles soient homosexuelles, lesbiennes, bi, pansexuelles, tout ça, voilà. Ouais, donc je veux défendre ces trucs-là aussi, quoi.
Après, il y a des trucs plus spécifiques. Il y a une chanson, effectivement, qui est marrante, d'ailleurs, sur l'homophobie, arachnophobie, tout ça. Tu fais ce que tu viens de dire, en fait. Mais après, il y a quand même des thèmes... je pense à la chanson Violeur, par exemple, ou Boniche. Là, c'est très clairement... tu défends la cause des femmes, quoi.
Ben, c'est-à-dire que... Boniche, ben oui, je parle des femmes, ouais. Mais après, par extension, enfin clairement oui, là c'est la femme à la maison, ouais. On peut se dire ça au premier degré, mais au second degré c'est pas juste la mère de famille, enfin ouais. Le cliché de soi-disant ce qu'était la femme avant et soi-disant ce qu'elle est plus maintenant, alors que c'est pas vrai. Ouais. Du coup, c'est une chanson, donc c'est un format chanson, donc je peux pas parler de 10 000 trucs en même temps. Ouais. Après, ce dont est victime la femme, ça touche en fait toutes les personnes qui sont pas un homme cis, blanc, jeune, maintenant, quoi. Donc, ça veut dire que, ouais, évidemment, ça va viser les femmes, mais ça va viser aussi les sexualités différentes, ça va viser aussi les PD. Je veux dire, quand on dit espèce d'enculé, ou ouais. Quand on dit ah ouais, je t'ai bien baisé et tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, il y a une force, d'un côté, il y a une valorisation à être celui qui baise, à être celui qui encule, et d'un autre côté, bah, il y a tous ceux qui se font baiser et qui se font enculer, qui sont en dessous, qui sont dominés, ou qui sont salis, du coup, par ce truc-là, et ça devient des injures normales, quoi. Et du coup, bah, y a un problème de vocabulaire, mais qui est sous-jacent à un problème qui est beaucoup plus gros. Ça veut dire que c'est à deux vitesses.
Moi, il y a Violeur aussi, que j'aime vraiment bien cette chanson, elle me touche beaucoup. Parce que. Et j'aime bien le fait que tu commences par dire t'es un mec bien, t'es un mec canard. Mm-hmm. Et effectivement. Ce serait simple de penser que les gens qui sont violeurs ou je sais pas quoi sont des sales cons de droite ou je sais pas quoi. Et non, effectivement, c'est plus compliqué que ça.
Bah là, c'est pareil. Sur cette chanson-là, c'est une chanson, donc je peux pas tout dire. Et le truc qui m'énerve le plus, c'est... Enfin, qui m'énerve le plus, non, il y a des tas de trucs qui m'énervent à mort. Mais je veux dire que le cliché qui est permanent, qu'on nous rentre dans le crâne à mort... Du mec dans une ruelle sombre qui s'attaque à une pauvre fille qui n'avait rien à faire dans un endroit pas éclairé, c'est mytho.
En mini-jupe.
Bah oui, voilà, ouais, c'est ça. Donc, non seulement c'est la faute de la nana, elle l'a déclenché, on dit se faire violer, hein, c'est ouf la langue française. C'est une personne qui a été violée, mais c'est passé dans les... c'est une expression qu'on dit, on se fait... Bah non, on se fait plaisir. Ok. Où on se fait mal parce qu'on est vraiment cruche, mais il est où le rapport avec le viol là? On l'a pas cherché le truc. Donc en fait, les chiffres de ces agresseurs qui se planquent dans des ruelles sombres, qui vous suivent chez vous, où vous avez pas de chance et tout ça, c'est vraiment une minorité par rapport à votre père, ok? Votre frère, votre cousin, le copain, votre mari, votre mec, votre ex. En fait, c'est ceux-là les vrais violeurs. Donc, faut arrêter de fantasmer, quoi, sur l'accident, qui arrive aussi, hein, bien sûr. Mais en fait, dans la plupart des cas, c'est des gens des gens connus qui s'attaquent à vous. Et ensuite, eh ben, c'est la honte sur votre gueule si vous allez le raconter. On vous met la pression. Alors, c'est ça qui est aberrant, quoi. Et ouais. Du coup, c'est d'autant plus insupportable quand c'est dans des milieux où on se dit qu'on est ouvert, qu'on est soi-disant féministe, qu'on est soi-disant libertaire, qu'on est soi-disant ceci, cela, tralalilala. Et en fait, ça revient au même. Les camarades femmes et les camarades hommes, ils n'ont pas le même statut. On ne les écoute pas de la même façon. On prend pas, leurs paroles n'ont pas la même valeur, on ne les respecte pas autant. Et du coup, quand il y a des cas d'agression et de viol... Eh ben, les personnes agressées ne sont pas soutenues comme il le faudrait, quoi. Après, là, je généralise, c'est pas pareil dans tous les endroits. Mais en général, on commence à douter de la personne agressée, quoi. Il faut qu'elle se justifie. Ouais. Alors que par contre, il y a un cordon de solidarité hyper puissant qui va défendre le violeur. Non mais attends, qu'est-ce qu'elle faisait là? Non mais attends, elle est connue. Non mais cette espèce de tute. Non mais c'est exactement pareil que dans la vraie vie où les gens militent pas. Donc, il y a un problème.
Il y a un problème. Ça, je veux bien le croire.
J'en avais envie, je me suis servi. de toi, ni de celles et ceux qui savent, ni de celles et ceux qui savent, et t'invite encore à bouffer, et t'invite encore à causer. Politique, lutte des classes, société. Violeur, ordure, je n'attends rien de toi, ni de celles et ceux qui savent, ni de celles et ceux qui savent, et t'invite encore à bouffer, et t'invite encore à causer, comme si de rien n'était. Elle ne voulait pas vraiment, su m'imposer. Alors elle s'est tue et j'ai pu la baiser. Peut-être qu'elle n'était pas d'accord tout d'abord, mais l'appétit vient en mangeant, c'est ce qu'on dit tout le temps. Et puis quand même c'est bien connu, cette fille-là elle aime le cul. Et puis quand même c'est bien connu, ce type-là il aime le cul. Et puis quand même c'est bien connu, cet enfant-là aime le cul. Et puis quand même, c'est bien connu, tout le monde aime le cul. Violeur, pourriture, je n'attends rien de toi, ni de celles et ceux qui savent, ni de celles et ceux qui savent, et t'invite encore à bouffer, et t'invite encore à causer. Cuisine, jardinage, actualité. Violeur, pourriture, je n'attends rien de toi, ni de celles et ceux qui savent, ni de celles et ceux qui savent, et t'invite encore à bouffer, et t'invite encore à causer, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était.
Est-ce que tu... Nous, on s'est interrogé sur... tu vois, nous, dans l'émission, on diffuse des musiques improvisées, tout ça. Mm-hmm. Et on se posait la question, à savoir, les femmes sont vraiment sous-représentées. Et on se demandait à quoi c'est dû. Donc, les gens avec qui on a discuté, il y en a qui disent, bah oui, mais il faudrait instaurer un genre de parité. Ce qui me m'horripile, moi, personnellement. Et j'aimerais savoir, quelle est ton opinion à toi là-dessus?
Ben, je sais pas comment dire. En fait, les trucs qui passent par la loi, je pense que il en faut. Après, je pense qu'il c'est plus profond que ça, quoi. C'est un truc qui passe, qui est comment dire, qui est diffus, qui est beaucoup plus fourbe et vicieux, quoi, et qui peut pas se régler juste avec une loi qui dirait bon, alors il faut faire l'égalité. Alors là, il nous manque trois filles, faut les trouver.
Ben, c'est ça.
Ben, en fait, ça. N'empêche, ce truc-là, ça aide. Mais en fait, ça suffit pas. Je veux dire que il faudrait, comment dire, il faudrait au départ que les garçons et les filles soient pas élevés, éduqués différemment. Ça veut dire que si une gamine, elle se sent autant capable d'être footballeur que docteur, que, je sais pas moi, alpiniste, enfin, si elle s'autorise à avoir les mêmes rêves qu'un garçon, et ben en fait, de facto, elle va pas se prendre la tête. Elle ira vers un truc qui lui plaît, qui n'est pas forcément un truc genré pour les femmes, quoi. Mmh. Un truc où tu es à l'écoute, tu vas travailler dans le social. Ou alors tu vas être professeur des écoles, parce que c'est bien de bosser avec des jeunes enfants. Ou alors tu vas être prof de lettres, parce que c'est plus pour les femmes. Ouais. Donc, ça va pas. Le truc de genrer l'éducation, c'est pas juste les garçons en bleu, les filles en rose. C'est aussi, une fille, ça doit pas parler fort, ça doit pas rigoler comme une grosse vache, ça se gratte pas les couilles. Bon, alors toutes les filles n'ont pas des couilles, même s'il y en a qu'en ont. Je veux dire, il y a tout un truc qui sont tamponnés comme vulgaires pour une femme, il faut surtout pas qu'elle se comporte comme ça. Et ça, c'est juste des trucs de, comment dire, qui rentrent pas dans sa féminité.
Ouais.
J'ai envie de mettre des guillemets, mais non, en fait, il est important ce mot de merde de féminité, quoi. Comme s'il y avait un truc qui faisait qu'une femme serait plus femme ou moins femme. Alors quand elle a de la féminité, alors là, elle est femme. Mais quand elle en a moins, là, elle est plutôt garçonne ou plutôt homasse. Ou... Tous ces trucs de merde, ça rentre aussi dans la catégorisation des métiers qu'une jeune fille ou une gamine ou une femme a le droit de choisir.
Ouais.
Elle peut pas choisir ce qu'elle veut, en fait. D'ailleurs, il y a plein de noms de métiers qui se mettent pas au féminin, et c'est pas pour rien, quoi. C'est, pas un, c'est un truc de dingue. Mais d'ailleurs, quand moi j'ai commencé la batterie, ça se disait pas batteuse.
Ah ouais.
Alors que là, j'ai fait une résidence avec un groupe dont je fais partie, Classic Dracula, super, ouais.
Je connais bien.
Ah ouais, bah voilà, bah c'est cool. Et du coup, à cette résidence, eh ben, y avait un groupe qui répétait, un duo. Et donc, c'était une batteuse. Et ça posait de problème à personne de dire qu'elle était batteuse. Ouais. Et j'étais trop contente.
Ah oui, bah oui.
Bah ouais, mais 20 ans plus tard. Ouais, non, alors que des batteuses, il y en avait bien avant moi. Mais ça occasionnait toujours des bonnes blagues et tout ça. Et en plus, si je rigolais pas de ces bonnes blagues, bah, je passais pour la nana pas marrante, quoi.
Ouais.
Oh, qui a pas d'humour.
Là, tu m'ouvres une porte sur un thème aussi de ton disque que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que peu traité, je trouve. C'est le thème de l'humour. Donc, il y a une chanson qui s'appelle Humour.
Mmh.
Et il y a aussi tout simplement le titre de l'album Barre de rire.
Qu'est-ce qu'on se marre.
On se marre, mais, mais quand tu vois l'image, donc tu as cité le garçon qui a fait le
scalpel.
Voilà. Donc c'est une barre d'immeuble d'HLM.
Oui.
Donc moi j'ai l'impression quand même que tu me diras si je me trompe, mais dans ton propos c'est de dire on n'est pas forcé de rigoler de tout, quoi.
C'est ça.
Ouais. Bah vas-y, je...
Bah en fait, on n'est pas forcé de rigoler de tout. Je sais pas si je formulerais ça comme ça, mais...
Formule à ta manière, ça m'intéresse.
Bah disons que déjà, rire de tout avec tout le monde, enfin je sais pas, tous ces trucs-là, il y a un mot scientifique hein, pour parler de ces machins entre la palissade et je ne sais pas quoi. C'est... Il m'échappe. Dans le cas de l'humour sexiste, l'humour raciste, l'humour validiste, enfin ces trucs-là, on se moque de la gueule des fous, des
validiste,
femmes.
Ça veut dire quoi, validiste? Je connais pas.
Alors en fait, c'est... comment dire?
Ah oui, il est valide.
C'est ça, ouais, il valide et...
Par rapport aux handicapés, d'accord.
C'est ça. Mmh. Et... Enfin, handicapés fous, tout ce qu'on considère pas normal, en fait. Mmh. C'est un humour qui se fait aux dépens d'autres gens. Donc, en fait, ça fait rire qui? Ça fait rire ceux qui ne sont pas concernés. Ouais. Et ceux qui sont concernés et qui en rient encore, c'est qu'en fait, c'est un peu la soumission, quoi. Mmh. Où on a envie d'être un peu discret, d'être pris pour quelqu'un qui comprend, qui ne va pas s'irriter comme ça pour rien, qui sait faire la part des choses. Non, non, en fait, c'est de la soumission. Ça veut dire qu'on rigole avec quelqu'un qui se fout de notre gueule, en fait. Mmh. Et ça, en fait, ça fait aussi partie de l'éducation. Alors, moi, je suis noire, hein, je suis une femme, je suis née en France. Donc, justement, je ne suis pas féminine. Donc, j'ai appris extrêmement tôt à rire de tout ça, quoi. J'ai appris à rire des blagues racistes, parce que moi, je suis une noire marrante, hein. Je rigole tout le temps, je suis une noire bien. Je vais pas m'énerver pour des trucs racistes comme ça, hein. Et puis, les blagues sexistes aussi, c'est super marrant. Puis les blagues sur les PD, qu'est-ce qu'on se marre. Et en fait, eh ben, dès que vous rigolez pas, ben ça y est, c'est bon, on rigole. Mais en fait, c'est toujours les mêmes personnes qui rigolent. C'est toujours des mecs blancs, hétérosexuels, cisgenres, qui rigolent et qui vous expliquent pourquoi vous avez pas d'humour. Ouais. Qui vous explique comment vous devriez rigoler et comment vous devriez prendre la chose. Alors que non seulement ils vivent pas ce que vous vivez, mais en plus ils s'en foutent. C'est juste pour le plaisir de faire cette blague. Alors après, moi je comprends que quand on a un statut de dominé, et qu'on a un statut de dominant, on vit pas les mêmes trucs. Donc c'est dur d'imaginer ce que l'autre y vit. Le truc, c'est que je pense, pour réussir à sortir de ça, c'est d'intégrer qu'on vit dans un système raciste, sexiste, homophobe, même si j'aime pas phobe, etc., etc. Et en fait, à partir du moment où vous essayez de vous dire qu'en fait, vous avez sûrement ces défauts qui vous dégoûtent, bah vous serez peut-être plus à l'écoute, en fait, et vous essayerez peut-être plus de moins dire de trucs vexants pour les autres. Peut-être plus... c'est peut-être un autre moyen d'essayer de s'intéresser à ce que vivent les autres et de voir, effectivement, à quoi correspond votre réalité, quoi. Que vous, il y a certaines attaques que vous ne vivez jamais, qu'il y a certains soucis que vous ne vivez jamais, tout ça. On parle beaucoup de la lutte des classes, et c'est beaucoup plus simple, apparemment, de faire la différence entre les riches et les pauvres. Mais en fait, il y a plein d'autres... Il y a plein d'autres dominations qui sont tout aussi importantes, et il faut y prêter une attention égale, quoi.
ça donne une chanson sur les pédophiles. Si je désire écrire une chanson joyeuse, je vais parler d'un violeur et de ses valseuses. Quand je me lance sur un sujet marrant, ça dérive en un instant sur l'avortement. À vue de nez, pour les comptines, je ne suis pas doué, pas doué, pas doué, pas doué.
Barre de rire, tu commences un peu en t'excusant, en disant ce que tu viens de dire là. je suis pas rigolote et tout ça, quoi. On peut me traiter de chiante et tout. Et moi, quand même, en écoutant ton disque, j'ai ri, j'ai souri. Donc, il y a vraiment.
Ah, mais barre de rire, c'est un vrai problème. Enfin, barre de rire, j'ai écrit cette chanson parce que, en fait, ça faisait plusieurs fois que j'avais envie d'écrire un truc marrant, vraiment un truc drôle. Et ça finissait toujours par. Qui était pas du tout ça marrant. C'est ça. Et du coup, j'ai fait une chanson parce que ça m'a fait rire. Mais.
C'est ça. C'est
après, je pense qu'on peut. On peut quand même rire de pas mal de choses parce que l'humour, c'est une forme de transformation.
Ouais.
Ça veut dire que même si la chose, elle est grave, qu'elle est triste, qu'elle est importante, on peut en retirer quelque chose qui nous fait sourire. C'est pas pour ça qu'on n'a pas envie de se battre contre.
Ouais.
Et c'est pas pour ça qu'on est obligé de le faire aux dépens de quelqu'un, quoi. On peut rire, on peut avoir de l'humour sans insulter les autres.
Mm-hmm.
C'est possible.
Bah oui. Après, il y a une chanson, moi, qui me touche. Alors là, elle serait presque féministe, mais je trouve qu'elle peut être reprise à son compte par des hommes. C'est Bébé, en fait, sur le manque d'envie d'avoir un enfant, tu peux...
Ah, c'est pas un manque d'envie, c'est une volonté de pas en avoir.
Ouais.
C'est clairement une volonté de pas en avoir. Après, oui, bah c'est sûr que l'envie de pas avoir d'enfant, ça peut être repris par un homme. Après, l'homme, c'est pas lui qui est enceinte, quoi.
Ouais,
donc, il a pas la même pression, et puis il a pas cette éducation. Bah, il a une pression, l'homme aussi. On vit dans un système patriarcal.
Ouais.
Donc, lui, il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit compétitif, faut qu'il soit prolifique aussi, et puis il faut qu'il transmette le nom de famille, enfin, il a plein de trucs à faire, hein, l'homme, hein, c'est sûr. Mais alors la femme, elle a un paquet d'autres trucs à faire à côté, ouais. Dont faire des enfants, et rester jeune et belle, évidemment, et avoir du temps pour s'occuper d'eux. Là, il y a un grand regain de la maternité, la femme à la maison, c'est pas ce qu'on pense, c'est super et tout... C'est super gentil, quoi, mais bon, l'homme, on va pas le saouler autant, quoi.
Ouais, c'est sûr.
On va pas le saouler autant, on va pas lui expliquer que son horloge biologique, elle est en avance, en retard, pile au bon moment. On va pas lui prendre la tête. Et puis, c'est un peu la même chose que les femmes qui ont effectivement des enfants. Ça veut dire que tout le monde va y aller de son petit commentaire. Si le gamin râle dans la rue, mais tout le monde va y aller, va lui expliquer comment l'élever, tout ça. Par contre, si tout se passe bien, on va rien lui dire.
Ouais.
Alors qu'un bonhomme, qui est avec le bébé ou l'enfant ou machin, alors là, on va lui faire des tas de remarques de « Non, mais c'est super, t'assures à fond, dès qu'il fait un seul truc, c'est génial !» Par contre, la mère, alors elle doit tout faire parfaitement, c'est normal, c'est la mère. C'est donc il y a des trucs un peu déséquilibrés comme ça, mmh. Et le fait de pas vouloir d'enfant quand on est une femme... Eh ben, on peut pas le crier autant que le fait de vouloir un enfant. Mmh. C'est inégal, c'est tout à fait normal de dire « Oh là là, vivement que j'en ai un, on n'y arrive pas !» Ou alors « Ouais, ça y est, on a réussi, oh, ils sont beaux, tout ça !» Et alors quand on dit qu'on veut pas d'enfant, on peut pas comprendre parce qu'en fait, on n'a pas d'enfant. Donc ça, c'est un peu bizarre. On est un peu une sous-femme, quoi. C'est-à-dire que notre avis, on va nous le demander vraiment dernier recours. On n'a pas forcément compris. On n'est pas complètement épanoui, quoi. Si on n'a pas voulu en avoir, c'est qu'on a sacrifié quelque chose au nom de notre carrière, au nom de quelque chose d'autre, parce qu'on est profondément égoïste, quoi. Voilà, c'est pour ça. Et en fait, non. Non, en fait, j'ai le droit de ne pas avoir un enfant, quoi. C'est un truc de dingue. J'ai carrément le droit qu'on ne me prenne pas la tête. Moi, je prends la tête à personne. Quand il vient me prendre la tête, c'est tout.
Non, non, yes, nada, no, nine, ta méta. Je ne veux pas, c'est comme ça. Je ne veux pas, c'est mon droit. Non, non. Nada, no, nine, dameda. Si tu le comprends, c'est bien. Sinon, ça ne change rien. Encore un matin sans bébé. Ça me plaisait déjà hier. Si je ne meurs pas aujourd'hui, demain sera comme ce matin. Encore un matin sans bébé. Ça me plaisait déjà hier. Si je ne meurs pas aujourd'hui, demain son bébé me réjouira aussi. Je n'ai rien contre toi, parce que toi tu en as. Arrête de m'insulter, parce que je n'en veux pas. Je ne te harcèle pas, pour savoir pourquoi tu en as. Arrête de me demander pourquoi je n'en veux pas. Je n'ai pas à m'expliquer, je n'ai pas à me justifier. Vivre sans être mère, telle est ma volonté. N'essaie plus de me convaincre, tant pis si tu n'as pas compris. Vivre sans être mère, c'est ce que j'ai choisi. Encore un matin sans bébé, ça me plaisait déjà hier.
après, pour rentrer dans plus technique sur cette chanson-là précisément, Bébé, je trouvais, moi je l'aime bien aussi, j'aime bien la mélodie. Et c'est une des rares chansons où tu chantes en fait.
Oui, c'est vrai.
La plupart du temps, tu parles, enfin
c'est vrai.
C'est de la scansion, je sais pas comment on dit, enfin peu importe. Mais moi je trouve que c'est bien quand tu chantes.
Merci.
Mais pourquoi tu chantes pas plus?
Sur ce morceau-là, c'est venu comme ça. Je trouve que c'est un morceau un peu joyeux. Alors,
t'avais envie de faire une berceuse, en fait. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui à Petra Pied-de-Biche. Alors, on a écouté précédemment Violeur, Barre de Rire et Bébé. Je vous propose de terminer l'interview de Petra Pied-de-Biche, de Ben, avec, on va parler de la scène amiénoise et de la SACEM, qui risque d'en prendre un peu pour son grade. Bon, parlons de la scène alternative amiénoise.
Ouais. Il y a plein de trucs chouettes.
Alors voilà, ça.
Vraiment, je redis que si j'avais pas découvert cette scène en habitant ici, il y aurait sûrement pas de Petra Pied-de-Biche.
Ouais.
Enfin, peut-être, mais je sais pas quand et je sais pas pourquoi.
T'as des noms à nous dire, bon, Edouard.
Ah bah oui, oui.
Edouard, on connaît, mais peut-être t'as d'autres trucs. Allez, c'est le moment de.
Ouais, bah alors là, faut pas que j'en oublie.
Bon.
Mais il y a un paquet de solos aussi. Alors de Edouard justement. Alors il y a Crinator qui est. Je saurais pas dire quel instrument. Ils font de tout. Alors de la basse, mais. Crine, elle fait aussi du clavier, de la ferraille, de la percu, enfin bref, comme Edouard, il tourne dans tout. Donc elle a un solo qui s'appelle Crinator qui est super. Un autre qui s'appelle La Scroafa en poutée de sida, je crois, je me suis peut-être un peu trompée, mais qui est super, où là elle est plus à la guitare. Alors il y a Usé aussi, qui a son solo qui s'appelle Usé. Alors les deux ensemble, ils ont un duo qui s'appelle Les Morts Vont Bien. Donc je précise pas à chaque fois que c'est super et que c'est génial, mais non. Je le pense. Donc, alors il y a aussi Terrine, la guitariste d'Edouard, qui a aussi son solo, donc qui s'appelle Terrine, qui déchire, qui est trop, c'est de la boulette. Alors, Romain, le batteur d'Edouard, il a 150 000 groupes, donc je sais même pas par lequel commencer. On va dire que tout est bien.
Mais alors,
ça, c'est juste pour Edouard.
Voilà, c'est ça, j'allais dire. Bon, une heure et demie, c'est bien, hein, comme format, on n'a pas trois heures non plus, quoi.
C'est ça, du coup...
En dehors d'Edouard, il y a des trucs, parce qu'on connaît...
Oui, en fait. Carrément.
Ouais,
ouais, je vais prendre le temps de réfléchir.
T'as noté ça?
Ouais, il y en a plein. Je sais qu'on avait fait une émission sur Radio Libertaire avec Jeudi Noir, où on avait fait une spéciale amiénoise. Je sais qu'il y a Fred Le Grenier, alors... On dit Le Grenier parce qu'en fait, il avait une librairie qui s'appelait Le Grenier.
Ah oui.
Et il est toujours libraire, mais il n'a plus de boutique, hélas. Et il fabrique aussi des gramophones avec des trucs de récup, dont pas mal de récup de restes d'armes de la guerre de 14.
Ouais.
Donc un gramophone avec un obus, c'est quand même pas mal. Il fait de la reliure aussi de bouquins. Et si je parle de Fred, c'est que ça fait partie des personnes qui m'ont beaucoup soutenu au début de Petra.
Ouais.
Et c'était vraiment chouette. Et il filmait tous les premiers concerts que j'ai faits et ça m'a vachement aidé à progresser plus vite.
Ouais, ouais.
De voir, c'est un bon outil la vidéo pour ça, du coup.
Oui, alors on va parler, tu vas partir en tournée, j'espère que tu as toutes tes dates en tête parce que.
Oulala! Bien sûr que non! Déjà, je me souviens qu'on part avec deux super groupes, donc Grâce et Volupté, Van Van. Et c'est trop bien.
Mais c'est quand, c'est où?
Et viscéralement déviant, et c'est trop bien. Et alors, on joue à Bordeaux le 9. On joue du 9 au 18.
Voilà. Donc.
Et le 18, on finit à Toulouse. Alors, je sais qu'on va passer à Saint-Étienne, je sais qu'on va passer près de Quimper, je sais qu'on va passer près de Rennes, qu'on va passer à Lille. Sachez, à Lille, je sais que c'est le 15 au festival Ebim. Et qu'on va passer aussi à Paris.
Où ?
Au Rigoletto, alors ça sera le 16, et aussi, du coup, ça doit être le 17 à Saint-Étienne et le 18 à Toulouse. Et j'ai oublié des trucs.
Bon, de toute façon, t'as un site sur lequel on peut retrouver toutes ces dates.
Ouais.
C'est le moment de le dire.
Alors, on peut retrouver ces dates sur Gurdulu. Donc, il y a une page Petra Pied de Biche sur Gurdulu.
Alors, Gurdulu.
.org / Petra, Petra, .htm. Et sinon, il y a aussi un autre blog. C'est mon blog. Du coup, alors c'est Petra Volta, comme ça se prononce, .wordpress, wordpress.com.
Bon, ça, c'est pour avoir toutes les infos de ça. Une petite question, est-ce que tu as un genre, vraiment, ça me fascine, ça. Mmh. Est-ce que tu as un genre de tourneur ou de quelqu'un qui s'occupe de tes dates, ou c'est toi qui...
Quand je suis toute seule, là, je me suis occupée que d'une seule date, et sinon, c'est les deux groupes qui s'en sont occupés.
Ouais, d'accord. Et ton blog, ta présence sur Internet, c'est toi qui gères ça aussi ?
Oui, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Je relaye surtout, j'écris pas du tout.
Ouais.
Ou juste trois mots par-ci par-là pour présenter le truc dont j'ai envie de parler. Et en fait, c'est surtout... c'est d'autres trucs que je trouve sur Internet. En fait, j'ai eu pendant un moment très court un Facebook.
Ouais.
Et du coup, il y avait plein d'infos de merde sur Facebook et aussi des infos super chouettes. Mais comme en fait, ça n'arrête pas de tomber, c'est impossible de s'en souvenir. Ouais. Mais en fait, ça m'a plu ce truc-là de pouvoir avoir un endroit où je stocke un peu les machins que je trouve. Et du coup, je fais ça avec un blog. Donc vraiment, c'est sans prétention, c'est des trucs que je trouve ailleurs, dans des endroits qui sont bien mieux. Et je les remets là aussi pour m'en rappeler moi. Donc tant mieux si du coup, ça fait découvrir des trucs aux gens. Mais c'est surtout moi pour me rappeler de ce que j'ai vu ailleurs et qui est chouette et dont j'ai envie de me souvenir. Ou de retourner plus tard. Donc voilà. Et du coup, j'ai complètement oublié d'approfondir en chargeant les groupes amiénois. C'est que ça m'a vachement plu de découvrir en venant à Amiens. Non seulement que c'était très simple, en fait, de faire de la musique et de ne pas être omnibulé par combien ça allait nous rapporter et si on allait réussir à en vivre avec des gros pétains de guillemets. En fait, quand on dit pétain, ça simplifie. On dit plus putain, on dit pétain et on dit vachement moins du coup. Voilà, c'est pour ceux qui, comme moi, ont envie de se débarrasser d'un certain nombre de mots dans leur vocabulaire tout pourri. Pétain, c'est une super bonne idée. Parce qu'en fait, ça dégueulasse vraiment le bec. On n'a plus envie de le dire et ça aide à mort. Et donc, je reviens à mes moutons que j'avais un peu oubliés. Donc non seulement à Amiens je trouvais que c'était super simple de faire la musique. Oh, ça te dit, c'est pas mal ce que tu fais, ça te dit, on se voit, on fait de la musique, ok, bam, voilà, super, c'est réglé, et on fait des concerts. Mais aussi c'est là que j'ai découvert ce truc là de s'entraider pour sortir des disques, pas juste d'essayer de trouver des subventions, de rentrer dans un programme, ou alors on va vous offrir un lieu pour faire une résidence, c'est super, mais en même temps, on va vous coacher pour que vous ayez une bonne image sur scène, je sais pas quoi, vous allez faire des stages pour qu'on vous apprenne à aller démarcher les distributeurs, à aller vous faire carotter, à aller filer votre disque en dépôt-vente, etc., pour espérer enfin pouvoir sortir un CD extrêmement cher sur lequel vous toucherez que 50 centimes et peut-être 50 euros de SACEM si vous en vendez 25 et qu'il passe un peu à la radio. Donc, en fait, il y a un autre système qui consiste, vous, à économiser un petit peu ce que vous pouvez et à rencontrer d'autres gens qui aiment ce que vous faites. Et donc, ils vont participer avec vous aux frais de fabrication du disque. Donc, ils récupéreront le nombre de disques équivalent aux sous qu'ils auront donné au départ, et puis vous aussi. Et puis, ils les vendront ou à leur concert, ou avec leur distro, parce que c'est un peu des disquaires ambulants. Et puis, vous ferez pareil. Et puis, voilà. Et puis, si ça marche bien, tant mieux pour vous. Vous pourrez represser, refaire des disques avec ce que vous aurez gagné, ou sinon, vous faites un autre disque quand même. En tout cas, je trouvais que c'était vraiment un beau système pour que votre musique soit enregistrée sur un beau support, parce qu'un vinyle, c'est cool. Et puis, contrairement à ce qu'on croit, ça serait moins facilement qu'un CD. Le nombre de CD que j'ai de fumée, si j'avais su, j'aurais pris des vinyles. Enfin bref.
Petra.
Ouais.
Là, ça sème.
C'est de la merde.
Comment...
N'y allez pas.
Mais comment
faut
ça,
pas
ça,
s'inscrire.
Ça permet aux artistes de toucher des sous.
Alors ça, c'est la grosse mytho qu'on dit. Alors déjà, là, ça sème, donc, comment dire, on est obligé de s'inscrire. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a dit, et c'est ce qu'on a dit à plein d'amis à moi, c'est on veut être musicien, musicienne, c'est pas possible sans être inscrit à la SACEM. On se demande bien pourquoi, mais moi, c'est le seul contrat de ma vie que j'ai signé sans lire. Ça veut dire que dans la vraie vie, quand on vous propose un contrat, que ce soit un contrat de travail, bon, bah, c'est toujours chiant quand même de travailler, hein, pour un patron, mais on lit quand même son pétain de contrat, hein. Quand vous allez acheter une voiture, je sais pas, vous achetez un meuble, vous avez l'impression de vous faire enfler si vous lisez pas le contrat. Ouais. Donc quand vous allez contracter un emprunt, bon, vous savez que vous vous faites enfler, mais vous avez envie de savoir de combien. Vous lisez le contrat. Eh ben à la SACEM, on lit pas le contrat. Et c'est le seul contrat à vie que je connaisse, à part le contrat que vous signez avec Satan pour vendre votre âme. Donc en fait, c'est un contrat à vie. Quand vous signez à la SACEM, quand vous vous inscrivez, vous vous engagez à ce qu'ils aient les droits sur votre musique à vie. Donc vous avez ce qui s'appelle les droits patrimoniaux. Ça veut dire que si on copie votre musique, on a le droit de le faire jusqu'à 8 mesures. Donc 8 mesures, c'est déjà énorme. On a le droit de le faire tant qu'on fait 7 mesures 3 quarts. Et puis si jamais on fait plus de 8 mesures et que on change un petit peu vos arrangements de génie, alors là, vous avez le droit de dire « Non ! Je refuse !» Et j'ai envie qu'on fasse les arrangements que j'ai décidés. Et là, on peut copier votre morceau. Donc Alain Chamfort peut chanter votre morceau sans aucun problème, tant qu'il respecte vos arrangements. Ça, c'est les droits patrimoniaux. Et tous les autres droits, ils sont à la SACEM. Donc, vous sortez un morceau, il appartient à la SACEM. Arrêtez de rêver, il appartient à la SACEM. Donc, vous vous dites peut-être, ouais, je vais gagner des thunes, ouais, super. En fait, si vous faites de la musique pour un dessin animé, de la musique pour une pièce de théâtre qui va beaucoup, beaucoup jouer, ou que vous vous appelez Alain Chamfort ou Jean-Jacques Goldman, d'ailleurs, entre parenthèses, Jean-Jacques Goldman, la SACEM lui doit tellement d'argent qu'elle le paye en biens immobiliers. Il a des îles, hein. Enfin bref. Donc, si vous gagnez vraiment un gros paquet de pèse, là, la SACEM, ça vaut le coup pour vous. Sinon, en fait, non. Et une fois que vous êtes inscrit, il faudra que vous payiez à chaque fois que vous voudrez reproduire votre musique. Donc, ça s'appelle les droits de la reproduction mécanique. Donc, à chaque fois que vous voudrez faire une cassette, faire un CD, gravé ou pas, faire un vinyle, il faudra que vous payiez à la SACEM parce que vous êtes inscrit. Soi-disant, parce qu'on va vous reverser de l'argent. Non, mais sérieux, quelle est la logique? Vous payez de l'argent, on va vous en reverser après, moins. Et vous savez pas pourquoi. Et la SDRM appartient à la SACEM. Donc, c'est une grosse enflure de ouf. Sinon, j'ai quelques petits chiffres aussi, pour vous dégoûter un peu plus. Des chiffres de 2012. Voilà, sur la redistribution de 2012, alors en fait, sur la grosse galette, 65% des sociétaires n'ont rien touché. Donc, dans le pourcentage qui reste, 1,8% du pourcentage qui reste a touché 72% de la galette. Donc, en fait, ça veut dire que c'est une carotte de ouf. Une carotte de ouf malade. Vous vous inscrivez à la SACEM, donc vous payez vos 100 et quelques euros, et c'est tout ce qui vous arrivera. Ou peut-être que, comme moi, parce que ça sera passé un petit peu à la radio, vous toucherez entre 20 et 50 euros par an, de temps en temps.
Donc,
par contre, vous ne pourrez pas diffuser votre musique sur des radios libres.
Tu as démissionné, donc?
J'ai démissionné. Oh oui.
Ça se fait facilement, ça?
Non. Et pourtant, moi, je ne leur rapporte rien du tout. Ouais. Donc, on m'a renvoyé de conseiller en conseiller qui avait des faux noms. J'ai jamais vu ça. Donc, sans parler des faux noms, oui, j'ai démissionné. Ça m'a mis à peu près 2 ans. Entre les traitements de dossiers, les renvois, les trucs, les machins. Donc, en plus, c'est chiant de partir. Et en plus, même une fois que vous êtes parti, ils détiennent vos droits pour encore une période plus ou moins déterminée, quoi. Donc, il y en a qui vous disent 1 an, il y en a qui vous disent 5, il y en a qui vous disent 10. Donc, en fait, je ne sais pas. Donc, si vous avez le choix, et je pense que vous l'avez toujours, ne vous inscrivez pas. Et si c'est déjà fait, bah, démissionnez. Parce qu'en fait, on peut toujours récupérer ses droits. On n'a pas besoin de passer par la SACEM. Si vous vous faites tellement de pognon que vous avez envie de le récupérer, eh ben vous prenez un avocat. Comme des groupes que je connais qui sont inscrits à la SACEM, mais comme la SACEM ne fait pas son boulot, ils ont besoin d'avoir un avocat ou un notaire qui fait le boulot et qui va récupérer les droits de diffusion, les droits de vente et tout ça. Donc en fait, si vraiment vous gagnez de l'oseille, vous pouvez le faire. Ou vous vous inscrivez à la SACEM parce que vous êtes une feignasse, mais parce que vous gagnez beaucoup de sous et que ça va continuer. Ou vous vous inscrivez pas et vous faites ça... avec quelqu'un du privé qui va essayer de récupérer vos droits, ou d'autres associations qui n'ont pas le monopole de la SACEM, mais qui fonctionnent également sur le même principe, à savoir qu'ils récupèrent les droits de diffusion, quoi. Mmh. Et voilà.
Il y a une chanson qui s'appelle « Con ».
Alors, on parlait tout à l'heure des mots comme « enculé », comme « j'étais bien baisé », tout ça. Ouais. Dans le délire, il y a « bordel ». En fait, c'est des mots qui sont passés dans le vocabulaire et qui à la base, sont quand même... Enfin, toujours cette notion que la femme et tout ce qui n'est pas un homme, en fait, ou considéré comme tel... ça doit rester à sa place. Et je trouve que con, en fait, c'est un mot par rapport à d'autres pays européens, je pense à l'Italie, là, ou l'Espagne, ou quoi, où il y a le mot équivalent. En fait, les gens savent ce que ça veut dire. Ouais. Alors qu'en France, il y a un paquet de gens qui ne savent plus que con, en fait, ça veut dire vagin. Mm. Et du coup, il y a un petit problème. Ça veut dire qu'une grand-mère bien élevée, voire une personne un peu qui va parler en public et tout ça, elle dira jamais putain, elle dira jamais enculé, mais elle peut dire vous êtes un con. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un peu même la classe, quoi. Donc ça veut dire que c'est une grosse insulte. Donc ça veut dire que être une femme, c'est une insulte. Ça veut dire que avoir un vagin, c'est une insulte. Et en fait, c'est passé comme un truc tout à fait normal. Et ça fait partie de ces trucs-là du vocabulaire contre lesquels, en fait, il faut se battre. Le français, c'est une langue super riche, vraiment. Il y a 12 milliards de façons de dire abruti, stupide, facile, simple, énervant, même des trucs plus argotiques, plus vulgaires, chiant. Donc, en fait, ne limitons pas notre vocabulaire à des mots, en fait, qui sont lourds de sens, quoi. Qui sont lourds de patriarcat, qui sont lourds de sexisme. On peut faire autrement, quoi.
Insultons-nous voilà. De buse ou de...
Mais ouais, ouais, non, mais... Moi, je suis trop fan de l'argot, il y a vraiment... C'est le plus vivant des langages partout, quoi. Même si une langue, c'est une langue vivante, en tout cas. Ça évolue sans arrêt, l'argot, ça évolue à une vitesse dingue, et c'est plein de poésie, donc je suis fan. Et d'ailleurs, j'ai rencontré en Allemagne un ami à moi, enfin... le frère d'un ami à moi faisait carrément sa thèse en Allemagne sur l'argot dans plusieurs pays, dont l'argot parisien. Et j'ai même appris des nouveaux mots. Mais tout ça pour dire qu'en fait, con, après avoir cherché, j'ai découvert que c'est un mot qui date de l'Antiquité. Je sais plus si c'est grec ou... Je suis pas universitaire, donc voilà, ma mémoire flanche un peu. Donc je sais plus si c'est grec ou latin à la base, mais c'était un mot médical au départ, carrément. Donc, pour viser l'utérus tout ou partie, ou en tout cas le vagin et les grandes et petites lèvres. Ensuite, c'est devenu un terme un petit peu licencieux, donc à peine dans l'Antiquité et surtout à l'époque moderne, enfin l'époque moderne en Europe, voire en France, donc on va dire fin 15e, même pas 16e, 17e siècle par là. Donc là, c'est devenu un mot un peu cochon.
Je crois que t'es cochonophobe. Quand tu dis que les gens sont cochons, qu'est-ce que t'as contre les cochons, quoi ?
Tu rigoles, mais j'ai changé les paroles de fumier où je dis dans ton cul, dans ta chatte.
Ouais.
En fait, en concert, maintenant, je dis autre chose que chatte. Parce qu'en fait...
Oui, les chats, d'ailleurs.
Ouais, parce que c'est ce que tu dis. Tu l'as dit en rigolant, mais en fait, j'y pense super sérieusement. C'est qu'en fait, même avec les noms des animaux, en fait, on leur attribue des trucs... Ouais. Ils sont censés être sales, ils sont censés être vicieux, licencieux, violents, agressifs, doux, oui. Mignons. Ouais. Et en fait, c'est juste des animaux, quoi. Donc là, je réapprends à dire chatte pour l'animal, qui est miaule, qui est gentil, hein. Et pour mon sexe, eh ben, je dis autre chose. Donc voilà, tu parlais des cochonnades, mais en fait, j'ai essayé aussi de dire d'autres mots. Tout ça, c'est réapprendre à maîtriser son vocabulaire, je trouve que... C'est politiquement important. Et ensuite, parce que j'ai pas fini sur con, je la chante plus non plus cette chanson.
Oh.
Donc là, j'ai mis un petit morceau, un petit texte dans le CD, dans le vinyle, pour expliquer pourquoi. Et donc, même si justement, je pense que c'est un mot qui insulte toutes les femmes, je m'étais pas rendu compte que cette chanson, elle est transphobe. Parce qu'en fait, une femme trans, elle a pas forcément de vagin. Ça n'empêche que c'est une femme.
Ouais.
Donc clairement, dans mon refrain... Je dis, le mot con désigne le sexe de la femme. En fait, c'est pas vrai.
Ouais.
C'est pas vrai. On peut être une femme sans vagin. Donc, je m'en excuse. Je m'en suis pas rendu compte en le faisant, mais je l'ai fait quand même. Donc, maintenant que je m'en suis rendu compte, je la chante plus. Et sur le fond, je porte toujours ce truc que vraiment le mot con m'énerve. En tout cas, dans cette utilisation-là. Et qu'il y a plein d'autres trucs de vocabulaire qui me saoulent, et même cette règle, plein de règles grammaticales, des mots qui se mettent pas au féminin, soi-disant le masculin qui l'emporte sur féminin, tous ces trucs-là, en fait, ils sont modifiables, ils sont perfectibles, et il faut le faire. La langue, elle ne change pas toute seule, il faut le faire. Mais je ne suis pas obligée de faire un morceau transphobe pour en parler. Voilà.
Ben, merci beaucoup, Petra. Merci beaucoup.
Et puis, ben avec plaisir.
Et puis à bientôt, on ira te voir en tournée.
Et ben ouais, venez.
Salut.
Venez nous voir, salut, merci de m'avoir invité.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres va bientôt s'achever. Alors oui, à bientôt, Petra Pied-Biche, je vais citer les concerts à venir. Donc c'est du 9 au 17 octobre 2015, tournée avec Grâce et Volupté Van Van, plus Vice et Râlement Déviant. Alors, le 9 octobre, c'est à Bordeaux, à l'Athénée Libertaire. Le 13 octobre, à Plonéis. Le 14 octobre, à Concoret. 15 octobre, Lille, c'est dans le cadre du BIM Festival. Le 16 octobre, à Paris, au Rigoletto. Le 17 octobre, Saint-Étienne, à la Gueule Noire. Le 18 octobre, à Toulouse, au Pavillon Sauvage, avec du reggae, Grâce et Volupté Van Van. Voilà, alors le vendredi 2 octobre, on va passer aux annonces maintenant. Le vendredi 2 octobre à 21h30, à partir de 21h30, après ça dure jusqu'à 6h du matin dans un autre lieu, mais moi je vais vous parler des projections, 15 vidéos, 1h30 de projection, de l'expérimental, de la fiction, du documentaire, du clip, des avant-premières. C'est au cinéma Le Brady, c'est 39 boulevard de Strasbourg, 10e arrondissement, métro Château d'Eau, Strasbourg-Saint-Denis, et c'est gratuit. Voilà, donc ce soir à partir de 21h30, avec notamment des films du collectif Négatif, Yves-Marie Mahé, Fabien Reynet, qu'on connaît bien dans notre émission. Beaucoup d'annonces aujourd'hui. Alors, le 2 octobre, donc ce soir et demain encore, alors ce soir à 20h30 et demain samedi 3 octobre à 17h, je vous signale le spectacle de Vincent Thomasset, Lettre de non-motivation d'après le projet de Julien Prévieux. Il est question que Vincent Thomasset et Julien Prévieux participent à notre émission assez prochainement. Donc alors le spectacle aura lieu dans la grande salle du Centre Pompidou à Paris. Le tarif c'est 18€ plein et réduit, laissé passer 14€. Depuis plusieurs années, l'artiste plasticien Julien Prévieux répond par la négative à des offres d'emploi. Reprenant à son compte ce rituel social qu'est la lettre de motivation, il en déjoue les codes en exprimant par écrit les raisons de sa non-candidature. Ça nous promet une émission passionnante encore. Du 2 octobre au 3 novembre 2015, exposition photo de Bernard Carré. Alors ce soir, à partir de 18h, c'est le vernissage, c'est entrée libre bien sûr, et c'est à la librairie du Monde Libertaire, à la librairie Publico bien sûr, 145 rue Amelot, de l'11e arrondissement de Paris. La librairie invite Bernard Carré pour une nouvelle expo côté studio, 15 ans de photos en émission, ça urge au bout de la scène, en compagnie de Georges Moustaki, Anne Sylvestre, Frasiac, Jean Guidoni, Juliette, Pierre Louki, Alain Leprest, etc., etc. Bernard Carré, animateur avec Bernard Gournay, depuis bientôt 30 ans de l'émission Ça urge au bout de la scène, tous les lundis de 21h à 22h30 sur Radio Libertaire. Samedi 3 octobre, toujours à Publico, à 17h30, concert avec Sabine Viret. C'est organisé par l'association Mots et Musique. Demain, donc, à 17h30, au 145 rue Amelot, dans le 11e. Dimanche 4 octobre à 17h, la guillotine. C'est à la guillotine, 24 rue Robespierre à Montreuil, métro Robespierre. Elle est dimanche de l'impro, hein, bien sûr, organisée par notre ami Jacques Pochat. Alors dimanche, il y aura Patrick Cazel, poésie, avec Ma Deschenes, poésie. No Cut, c'est un duo Philippe Desclay et Stéphanie Briand. Et Strotter, Christophe S., qui est suisse, je crois, montage expérimental sur des platines, c'est des platines avec tout un espèce d'appareil, c'est assez marrant à voir. Donc c'est le dimanche à la guillotine, 24 rue Robespierre, et ça coûte 7€. Dimanche également, les Instants Chavirés présentent dans le cadre du festival Mad in 93, Pali Morceau, Frédéric Nogret, Ellie Patterson en trio. On avait reçu Pali Morceau et Frédéric Nogret séparément dans notre émission il n'y a pas très très longtemps cette année. Et en deuxième partie, Sébastien Borgo. Le concert est à 18h. Attention, c'est une heure c'est un peu tôt pour les Instants Chavirés. C'est une heure de dimanche, ça. Dimanche, donc 18h. Et le tarif, c'est 12€ plein, 10€ en prévente. Préventé Montreuillois. Et 8€ abonné aux Instants Chavirés. Les Instants Chavirés, 7 rue Richard Lenoir, à Montreuil, bien sûr, métro Robespierre. Mardi 6 octobre à 20h à Pantin, dans le cadre de Sonic Protest, Damien Schulz et LG en duo. Puis Maria Bertel solo, alors c'est la tromboniste de Selventer qu'on recevra, en fait c'est pas qu'on les recevra, c'est qu'on les a enregistrés au festival de Météo de Mulhouse, donc une émission très très bientôt autour de Selventer. Et là c'est la tromboniste qui a une sacrée personnalité, un sacré son, hein, c'est trombone un peu, enfin carrément même saturé. Et en troisième partie, Radical Satan, donc c'est dans le cadre de Banlieue Bleue, de la Dynamo, ouverture des portes à 20h, prévente 10€, plus frais de location, sur place 12€, C'est à la Dynamo, 9 rue Gabriel Josserand, à Pantin. Mercredi 7 octobre 2015, on retourne aux instants chavirés avec Peter Brotman et Steve Noble en duo, je crois, puis Jacques Demierre, Urs Lem Gruber et Anna Marshall. C'est, attention, c'est au Théâtre Berthelot à Montreuil. C'est le Théâtre Berthelot, 6 rue Marcelin Berthelot à Montreuil, métro Croix-de-Chavaux. C'est donc pas aux instants chavirés, mais c'est les instants qui organisent. C'est sensiblement les mêmes tarifs que j'ai dit tout à l'heure, 12€ plein tarif, 10€ pré-vente, mais 10€ également pour les abonnés aux instants. Le jeudi 8 octobre 2015, on reste aux instants chavirés, chanson française dégénérée présente, Jean-Louis Coste, puis le duo Charles Pennequin et Jean-François Pauvros, et enfin Kill. Alors, qui le sait, ils sont 6 sur scène et ils jouent 10 fois trop fort. Gros matos, vacarme, wall of sound, mur de son. Kill est un projet rock, brutiste, un bien joli casting. Stromvarx, plus Romain Perrault de Vomir, plus Casper Toplis, plus Gaël Angelis de Carbon Sync, plus Sophie Trauber de Ben et Benet, et enfin Andy Bolus de Evil Moisture. Donc c'est jeudi 8 octobre 2015, ouverture des portes à 20h, début des concerts à 20h30 précise, et pour ce coup-ci, il y a un tarif unique de 10€. Voilà pour les annonces. La semaine prochaine, nous recevrons Anne-Marie Dubois pour l'exposition au musée Saint-Gerre-Polignac intitulée Psilocybine, quand la psychiatrie observe la création, les années 60 à Sainte-Anne. Exposition ouverte au public depuis quelques temps, mais juste au 29 novembre, et c'est gratuit. Voilà, on se quitte avec un dernier extrait de l'album Barre de rire de Petra Piedbiche, qui était notre invitée aujourd'hui, et qu'on aura largement écouté et commenté. À la semaine prochaine, salut!